Les aventures de Tom Sawyer par Mark Twain, quatrième cassette, première face, page 87. Chapitre 10, le serment. Muets de terreur, les deux gamins fuyaient en direction du village. De temps en temps, ils jetaient timidement un regard en arrière, comme s'ils avaient peur d'être suivis. La vue d'une souche sur leur chemin leur coupait la respiration. Ils croyaient chaque fois voir un homme, c'est-à-dire un ennemi, et quand ils passèrent en trombe près des premières maisons isolées aux abords du village, l'aboiement des chiens de garde leur donnait des ailes.
« Si seulement nous avions la force d'arriver jusqu'à la vieille tannerie, » fit Tom hors d'haleine. « Je ne vais plus pouvoir aller très loin. »
Huckleberry était hors d'état de répondre autrement que par des halètements précipités. Les deux enfants avaient les yeux braqués sur le but à atteindre et y consacraient tous leurs efforts. Peu à peu, la distance diminuait. Bientôt, ils se ruèrent ensemble par la porte ouverte et, épuisés mais radieux, s'allongèrent sur le sol dans l'obscurité tutélaire d'un hangar. Leur essoufflement ne tarda pas à se calmer. Tom chuchota.
Huckleberry, comment penses-tu que ça va finir?
Si le docteur Robinson meurt, il y aura sûrement quelqu'un de pendu.
Tu crois?
Mais je le sais, Tom.
Tom réfléchit puis demanda.
Mais qui va raconter cette histoire?
Nous? Eh, pas de bêtises. Une supposition qu'il arrive quelque chose et que Joe et l'Indien ne soient pas pendus. Il nous tuera un jour ou l'autre, aussi sûr que nous sommes là.
C'est justement ce que je pensais, dit Tom. Si quelqu'un parle, dit Huck, que ce soit Meuf Potter s'il est assez bête pour le faire. Il est souvent assez saoul pour ça, en tout cas.
Tom réfléchit à nouveau un instant, puis il murmura.
Après tout, Huck, Meuf Potter ne sait pas exactement comment ça s'est passé. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise?
Eh bien, pourquoi ne sait-il pas?
Parce que quand Joe l'Indien a fait le coup, Potter venait de se faire assommer. Crois-tu qu'il a pu voir quelque chose? Penses-tu qu'il se soit rendu compte de quelque chose?
Ah, oh, c'est vrai ça, Tom.
Et si le coup l'avait achevé? S'il est mort?
Ah non, c'est peu probable, dit Huck. Il avait du vent dans les voiles. Il était saoul, c'était visible à l'œil nu. Et d'ailleurs, il a toujours du vent dans les voiles. Tu sais, quand papa est saoul, on l'assommerait avec une cathédrale qui ne s'en porterait pas plus mal. C'est lui-même qui le dit. Eh ben, il n'y a pas de raison qu'avec Potter, ça ne soit pas la même chose. Mais un homme qui n'est pas saoul, ah, peut-être qu'il aurait été assommé du coup. Ça, je ne sais pas.
Après un nouveau moment de réflexion, Tom ajouta.
Dis donc, Huck, es-tu sûr que tu pourras garder le secret?
Mais Tom, il faut que nous le gardions. Tu le sais. Si nous ne tenions pas notre langue, suppose que ce diable d'Indien ne soit pas pendu. Il se gênera pas pour nous noyer tous les deux, comme de petits chats.
Écoute, Tom, il n'y a qu'une chose à faire. Nous allons jurer l'un à l'autre de ne pas souffler mot de cette histoire.
Entendit, Huck. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Lève la main et jure que...
Oh non, ça colle pas. Jurer comme ça, c'est bon pour des petites blagues, de rien du tout, surtout avec les filles.
Jurer ou pas jurer, pour peu qu'elles reprennent la mouche, elles s'empressent de tout raconter.
Mais pour un truc de cette importance, il faut écrire. Et écrire au sang.
Tom applaudit de tout cœur à cette idée. L'affaire était sérieuse, ténébreuse, solennelle. L'heure, les circonstances, le lieu se prestaient à cette mise en scène. Il ramassa une planchette de sapin qui se trouvait sur un tas de décombres, prit dans sa poche un morceau de craie rouge, s'installa de telle sorte que la lune éclaira son travail et avec application, se mordant la langue à chaque plein et desserrant les dents à chaque délié, griffonna péniblement les lignes suivantes. Huck Finn et Tom Sawyer jurent, il écrivait J-U-R-E, de garder le secret là-dessus, et ils souhaitent tomber raide mort sur leur chemin s'ils parlent
est tombé en pourriture. Huckleberry admira l'élégance de la rédaction de Tom et l'aisance avec laquelle il se tirait de cette tâche difficile. Tirant une épingle du revers de sa veste, il allait se piquer quand Tom l'arrêta.
« Fais pas ça, malheureux, c'est du cuivre.
Peut-être qu'il y a du verre de gris dessus.
Ben, qu'est-ce que c'est que ça, du verre de gris ?
C'est du poison. Essaye un peu d'en avaler une fois et puis tu verras. »
Tom ôta le fil d'une de ses aiguilles. L'un après l'autre, les gamins se piquèrent l'extrémité du pouce et en firent jaillir une goutte de sang. En se servant comme plume de la pointe de son petit doigt, Tom réussit, après plusieurs pressions de son pouce, à dessiner ses initiales, puis il montra à Huckleberry comment faire un H et un F, et le pacte fut signé. Ils enterrèrent ensuite la planchette près d'un mur, en accompagnant cette opération de cérémonie et d'incantations diverses. Pour eux, ce fut comme s'ils s'étaient fermé la bouche avec un cadenas dont ils auraient jeté la clé au vent.
À l'autre extrémité du bâtiment où ils se trouvaient, une silhouette se glissa furtivement par une brèche dans le mur. Mais les enfants ne s'aperçurent de rien.
« Tom, chuchota Huckleberry, est-ce que ça nous préserve à tout jamais de parler de cette affaire ?»«
Bien sûr, dit Tom, quoi qu'il arrive, nous devons nous taire. Nous tomberions raide mort, tu le sais bien. »«
Ouais, évidemment. »
Ils continuèrent à bavarder à voix basse. Tout à coup, au dehors, à quelques pas d'eux, un chien poussa un hurlement lugubre, interminable. « Wouh ! Wouh ! » Les deux enfants, à moitié morts de peur, se cramponnèrent l'un à l'autre.
« Auquel de nous deux est-ce qu'il en veut ?»
octa Huckleberry.
« Je sais pas, dit Tom. Regarde par la fente, là, vite.
Regarde plutôt, toi.
Je peux pas, Huck.
Va voir, Tom.
Le blanc qui recommence. Ah,
ah, sauvé, dit Tom. Dieu merci, je reconnais son aboiement. C'est le chien des Harbison.
Ah, ben tant mieux. Je peux te le dire, j'en menais pas large. J'aurais parié n'importe quoi que c'était un chien perdu.
Le chien hurla de nouveau. Encore une fois, le cœur des enfants se serra.
Malédiction ! C'est pas le chien des Harbison, murmura Huckleberry. Regarde, Tom.
Tom, plus mort que vif, appliqua son œil à la fente. D'une voix étranglée, il dit :
Oh, Huck ! C'est un chien perdu.
Dis vite, Tom.
À qui de nous en veut-il ?
Je crois bien que c'est aux deux, répondit Tom. Nous sommes ensemble.
Oh, Tom,
ça y est, on est fichu. Je ne sais que trop où ça va me mener, tout ça, moi qui en ai fait toutes les couleurs.
Ah, pardi, tout ça vient d'avoir fait un tas de choses qu'on vous défend.
J'aurais pu être un bon petit garçon, bien sage, comme Sid, si j'avais voulu. Mais non, je ne voulais pas, dit Tom. Ah, si j'en réchappe, tu peux être sûr que je quitterai plus l'école du dimanche.
Et Tom fit entendre un reniflant.
Toi, dit Huckleberry en reniflant à son tour, toi tu as un petit sein à côté de moi. Je voudrais bien avoir la moitié des chances que tu as de t'en tirer.
Tom faillit s'étrangler.
Regarde qui ? Regarde ! Il nous tourne le dos.
Huckie ne se tenait pas de joie.
C'est ma foi vrai et avant.
C'était la même chose. Mais je n'y ai pas pensé, dit Tom.
Ah, ça, c'est une affaire.
Mais à qui peut-il bien en avoir ?
Aouh !
Le chien cessa de hurler. Tom dressa l'oreille.
Chut ! Qu'est-ce que c'est que ça ?
On dirait un grognement de cochon. Non, non, c'est quelqu'un qui ronfle.
C'est ça, dit Tom. Mais d'où est-ce que ça vient ? crois que c'est à l'autre bout, dit Huck. En tout cas, ça en a l'air. C'est arrivé à papa de dormir là avec les cochons. Mais lui, il a un ronflement que je reconnaîtrais entre mille. Il bat tous les records. Et puis, il vient plus dans ce patelin. Chez les gamins, l'esprit d'aventure reprenait ses droits.
Hucky, dit Tom, si je vais voir, tu viens avec moi ?
J'aime pas beaucoup ça. Des fois que ça serait Joël l'Indien. Devant un tel argument, Tom hésita, mais la tentation fut la plus forte.
Les enfants conclurent qu'ils iraient voir, mais qu'ils se sauveraient au plus vite dans le cas où le ronflement cesserait.
Ils se mirent en marche, l'un derrière l'autre, sur la pointe des pieds.
À quelques pas du ronfleur, Tom marcha sur une planche qui cassa avec un bruit sec. Crac ! Le dormeur poussa un grognement et se retourna. Son visage apparut dans le clair de lune. C'était Muff Potter. Quand le dormeur avait remué, les enfants avaient eu très peur. Mais maintenant, ils étaient rassurés. Toujours sur la pointe des pieds et en évitant les planches cassées, ils se retirèrent. Le chien recommença à hurler.
Aouh !
Cette fois, il était tout près de Potter et lui faisait face, le nez en l'air.
Oh, c'est lui ! S'exclamèrent les deux gamins en même temps.
Dis donc, Tom, paraît qu'il y a 15 jours, un chien perdu est venu hurler à minuit près de la maison de Johnny Miller. Le soir même, on a entendu un engoulevent, un oiseau de malheur. N'empêche qu'il n'y a encore personne de mort.
Je sais, dit Tom, mais est-ce que Gracie Miller ne s'est pas terriblement brûlée en tombant dans le feu de la cuisine le samedi suivant ?
Possible. Elle n'est pas morte quand même. Et qui plus est, elle va mieux.
Attends voir, répondit Tom. Elle tardera pas à s'en aller, tout comme Muff Potter. Les Noirs le disent et ils savent un tas de choses là-dessus.
Les deux gamins se séparèrent, perdus dans leurs réflexions. Quand Tom rentra dans sa chambre par la fenêtre, la nuit était déjà très avancée. Il se déshabilla avec précaution et se coucha en se félicitant que personne n'ait eu vent de son escapade. Il ne pouvait pas savoir que Sid, qui faisait semblant de ronfler, était éveillé depuis 1 heure. Quand Tom se réveilla, Sid s'était habillé et était parti. Le soleil était haut dans le ciel. L'atmosphère n'avait rien de matinal. Il s'étonna. Pourquoi ne l'avait-on pas appelé ? Pourquoi ne l'avait-on pas persécuté jusqu'à ce qu'il se levât comme d'habitude ? Tom eut le pressentiment de quelque chose d'anormal. En hâte, il s'habilla et au bout de 5 minutes, il descendit l'escalier. Il était tout courbattu et il avait sommeil. Les autres membres de la famille étaient encore à table, mais ils avaient fini leur petit déjeuner. Pas un mot de reproche ne lui fut adressé, mais les yeux se détournaient de lui. Un silence aussi solennel glaça le cœur du coupable. Il s'assit et tenta de paraître gai, mais la tâche était au-dessus de ses forces. Personne ne sourit, personne ne répondit. Il se tut. Le courage lui manquait. Après le déjeuner, sa tante le prit à part. Tom était presque joyeux à l'idée d'être fouetté, mais son espoir fut déçu. La tante pleura, lui demanda comment il avait le cœur de lui faire tant de peine. S'il continuait, il se perdrait de réputation et lui causerait tant de chagrin qu'elle en mourrait, tout effort de sa part étant désormais inutile. Ses reproches firent à Tom plus d'effet que bien d'effacé. Il pleura, demanda pardon, multiplia les promesses de se corriger, mais sentit bien qu'il n'obtenait qu'un pardon réticent et n'inspirait qu'une confiance mitigée. Quand il sortit, il était trop démoralisé pour s'en prendre à Sid, de sorte que celui-ci n'eut même pas besoin de se ménager une ligne de retraite par la porte de derrière. Tom reprit tristement le chemin de l'école. En compagnie de Joe Harper, il fut fouetté pour avoir fait l'école buissonnière la veille, et supporta cette punition avec l'air dégagé de quelqu'un qui est au-dessus de ça et qui en a vu d'autres.
Il alla se rasseoir, les coudes sur la table, le menton dans les mains, et regarda le mur d'un œil morne, comme s'il avait atteint les dernières limites de la souffrance. Son coude heurta quelque chose de dur. C'était un objet enveloppé dans du papier. Il le déplia, poussa un long soupir, et son cœur se brisa. C'était l'anneau de cuivre qu'il avait offert à Becky. Son malheur passait son espérance. Chapitre 11. Scrupule de conscience. Le lendemain, dès midi, tout le village était au courant des lugubres événements de la nuit. La nouvelle courut de bouche en bouche, de groupe en groupe, de maison en maison, presque aussi vite que l'eût propagé le télégraphe s'il avait existé à cette époque. Le maître d'école crut de son devoir de donner congé à ses élèves pour l'après-midi, et l'opinion publique n'aurait pas admis qu'il en fût autrement. Un coutelas ensanglanté avait été trouvé près du cadavre, et quelqu'un, disait-on, avait reconnu l'arme comme appartenant à Muff Potter. Un habitant du village rentrant tard chez lui aurait, vers 1 ou 2 heures du matin, rencontré Potter se lavant dans le ruisseau. Là-dessus, Potter se serait sauvé sur le champ. Détail d'autant plus étonnant que chez Potter, les soins de propreté laissaient notoirement à désirer. Des perquisitions auraient été faites un peu partout dans le village pour retrouver le meurtrier. Le public a tôt fait de tirer des conclusions et de rendre son verdict, mais le meurtrier serait resté introuvable. Des agents de la police montée étaient censés parcourir les routes dans toutes les directions et le shérif aurait bon espoir de mettre la main sur le coupable avant la nuit. Toute la ville se rendit au cimetière. Tom imposa silence à ses peines de cœur pour y aller lui aussi. Non qu'il n'eût mille fois préféré être ailleurs, mais parce qu'une attirance inexprimable, irrésistible, l'entraînait. Arrivé à l'endroit fatal, il se glissa dans la foule des badauds. Il avait l'impression qu'un siècle s'était écoulé depuis la scène de la nuit. Quelqu'un lui pinça le bras. Il se retourna, c'était Huck. Comme s'il s'était donné le mot, les deux gamins tournèrent les yeux dans une autre direction, de crainte que quelqu'un ait pu surprendre leur premier regard. Mais consacrant toute leur attention au triste spectacle qui s'offrait à eux, les gens échangeaient leurs impressions. « Pauvre garçon ! Oh, pauvre jeune homme ! Voilà ce que c'est que de violer les tombes ! Ah, oh, si on pince Muff Potter, son compte est bon !» Les langues allaient bon train, et le pasteur émit l'idée qu'il fallait voir là-dedans l'intervention de Dieu. Tout à coup, Tom frissonna de la tête aux pieds. Il venait d'apercevoir le visage impassible de Joé l'Indien. À ce moment, un remous se produisit dans la foule. Des voix s'élevèrent. « Le voilà ! Le voilà ! C'est lui ! Qui ? Qui, lui ? Ben, Muff Potter ! Le v'là qui s'arrête ! Attention, il s'en va ! Ne le laissez pas partir !» Des gens qui étaient grimpés dans les arbres au-dessus de Tom dirent que Potter n'essayait pas de fuir, mais qu'il paraissait hésitant, embarrassé. « Quel toupet infernal !» dit un spectateur. « Monsieur revient voir son œuvre et il ne pensait pas trouver tant de monde !» La foule s'écarta. Le shérif approchait, tout fier de tenir Potter par le bras. Le pauvre homme, livide, les yeux hagards, suait l'épouvante. Devant le cadavre, il fut pris de tremblements convulsifs, se cacha le visage dans les mains et fondit en larmes.
« C'est pas moi » sanglotait-il. « Parole d'honneur, c'est pas moi qui ai fait ça !»«
Qui t'accuse ?» dit une voix. Le coup porta. Potter leva la tête et jeta autour de lui un regard désespéré. Il aperçut Joé l'Indien.
« Oh, Joé, tu m'avais pourtant promis de ne jamais... »
« Ce couteau est-il à vous ?» demanda le shérif en présentant l'arme du crime. Si on ne l'avait pas retenu, Potter serait tombé. Il dit
« Quelque chose me poussait à revenir et à... »
Un tremblement le secoua. Il fit de la main le geste de tout abandonner et balbutia
« Et dis-leur, Joey, vas-y, dis-leur, ça n'a plus d'importance maintenant !»
Muet, les yeux écarquillés, Huckleberry et Tom écoutèrent le scélérat débiter cyniquement son histoire.
les enfants s'attendaient à chaque instant à voir le feu du ciel tomber sur la tête de Joe l'Indien, le menteur, et trouvaient que la vengeance divine était bien longue à venir. Les deux gamins furent d'abord tentés de manquer à leur serment pour sauver la vie du malheureux prisonnier trahi. Mais quand ils constatèrent que Joe était toujours sain et sauf, ils jugèrent plus prudent de ne pas parler. Il devenait évident pour eux que le mécréant avait vendu son âme au diable et qu'il pourrait être dangereux de s'attaquer aux clients d'un aussi puissant patron.
« Et pourquoi n'as-tu pas fui ? Pourquoi venir ici ?» demanda quelqu'un.
« Ben, j'ai pas pu. Je n'ai pas pu faire autrement, » gémit Potter. « J'aurais voulu me sauver, mais j'ai pas pu m'empêcher de revenir ici. »
Il sanglotait. Quelques minutes plus tard, par devant le jury, Joe l'Indien confirma sa déposition sous serment avec la même assurance. Voyant que la colère divine ne se manifestait toujours pas, Huck et Tom furent de plus en plus convaincus que Joe avait vendu son âme au diable. Il leur en imposait tellement que les enfants ne le quittaient pas des yeux. Dans leur fort intérieur, ils se promirent de l'épier la nuit quand l'occasion s'en présenterait, dans l'espoir d'apercevoir son redoutable maître, Satan en personne. Joe l'Indien aida à enlever le cadavre de la victime et à le charger dans une voiture qui devait l'emporter. Et dans la foule qui frissonnait, le bruit se répandit que la blessure saignait un peu. Les enfants pensèrent que ce détail providentiel allait orienter les soupçons dans la bonne direction. En effet, une superstition bien répandue dans cette région disait que le sang du mort désigne l'assassin. Mais leurs espoirs furent déçus. Plusieurs villageois ayant fait observer. Quand le cadavre a saigné, Muff Potter était à moins d'un mètre. Pendant plus d'une semaine, la garde de son terrible secret et les scrupules de sa conscience troublèrent le sommeil de Tom. Si bien qu'un matin, au petit déjeuner, Sid finit par lui dire
« Mais qu'est-ce qu'il y a, Tom ? À force de remuer sans arrêt dans ton lit et de parler pendant ton sommeil, tu m'empêches de dormir la moitié de la nuit. »
Tom pâlit et baissa les yeux.
« C'est mauvais signe !» déclara la tante Polly. « Qu'est-ce que tu as dans la tête, Tom ?»«
Rien. Rien que je sache, ma tante, » dit Tom. Mais ses mains tremblaient tellement qu'il en renversa son café. Sid insista.
« Et tu en racontes des histoires. L'autre nuit, tu as crié « Du sang ! Du sang ! Voilà ce que c'est !» Tu as répété ça je ne sais pas combien de fois. Et puis tu as dit « Ne me torturez pas comme ça, je dirai tout. Tout quoi ? Qu'est-ce que tu vas dire ?»
Tom sentit la tête lui tourner. Par bonheur, la tante Polly, sans le vouloir, vint à son secours.
« Ah, oh, c'est cet horrible meurtre. J'en rêve, moi aussi, presque toutes les nuits. Il m'arrive même de rêver que c'est moi qui l'ai commis. »
Marie déclara à son tour qu'elle aussi avait eu des cauchemars. Sid parut convaincu. Tom s'esquiva aussitôt qu'il put. Pendant plus d'une semaine, il prétexta un mal de dents pour pouvoir se bander la mâchoire la nuit. Mais il ne sut jamais que Sid, relâchant le bandage, l'épiait pendant son sommeil et restait pendant des heures appuyé sur son coude pour écouter et remettait ensuite le bandage en place. Mais l'agitation de Tom se calma progressivement. Son mal de dents devenait ennuyeux. Il l'abandonna. Si par les bavardages nocturnes de Tom, Sid avait appris quelque chose, en tout cas, il n'en révéla jamais rien. À l'école, il sembla à Tom que ses camarades ne cessaient pas de mener des enquêtes à propos de chaque revêt, ce qui contribua à entretenir son malaise. Sid remarqua que bien que Tom eût l'habitude de jouer le premier rôle à chaque fois qu'il y avait un nouveau jeu, il se refusait régulièrement à faire le juge d'instruction dans ces sortes d'affaires. Il ne pouvait pas non plus être témoin, ce qui parut bizarre à Sid. Il n'échappa à Sid que Tom montrait une véritable aversion pour ses enquêtes et les évitait toutes les fois qu'il pouvait. Sid s'étonnait, mais ne disait rien. Le jeu finit par passer de mode et la conscience de Tom fut enfin laissée en paix. Entre-temps, presque tous les jours, Tom trouvait une occasion pour aller jusqu'à la fenêtre grillée de la cellule de Meuf Potter afin de faire passer au meurtrier, ou soi-disant tel, quelques douceurs qu'il avait pu se procurer. La prison était une petite construction en briques, près d'un marécage, à la lisière du village. Rarement occupée, elle n'avait pas de gardien. Ses menus cadeaux aidaient grandement Tom à soulager sa conscience. Dans le village, nombreux étaient ceux qui auraient bien voulu punir Joe et l'Indien d'avoir déterré un cadavre, mais on avait tellement peur de lui que personne n'osait en prendre l'initiative. On dut y renoncer. Le scélérat ayant pris soin de commencer ses dépositions par le récit du combat sans mentionner la violation de sépulture qui l'avait précédée, on estima qu'il n'y avait pas lieu de l'inculper pour le moment. Fin de la première partie de la quatrième cassette, Les aventures de Tom Sawyer par Mark Twain, page 99.